est une prévision, mais ils illustrent des décisions clés à venir.
Juliette Pietraszewski, c'est la fin du journal. Très bonne soirée sur RFI.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout.
Chant contre chant revient à Angers. 4 jours pour vibrer avec le court-métrage, le vidéoclip et la musique de film. Projections, rencontres, expos, concerts, l'image et le son, même pulsation. Du 13 au 16 novembre, à la Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, à Angers. Infos et billetterie sur champcontrechamp.com.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Mercredi 12 novembre 2025, il est 18h10 et on est au cœur de cette semaine d'agitation locale, culturelle et même cinématographique ce soir, car nous avons déjà nos chroniqueurs ciné qui seront là, qui vont arriver en cours de route, Mathéo et Johan. Nous aurons normalement, qui va arriver aussi en cours de route, notre cher Yves Maguin, qui propose le festival Chant contre Chant. Alors il va nous redonner les dates, ça va arriver à partir de ce week-end je crois. Et bah, notre invité aussi, tout simplement, on va parler de cinéma puisqu'on va être avec Jonathan Dyer qui a réalisé The Land of Shadows. Alors Jonathan, vous le connaissez peut-être pour The Believers et pour tout un tas d'autres choses. Voilà, là il se lance dans son premier long métrage. Pourquoi il fait ça, de quoi ça parle et comment il le fait surtout, car c'est autoproduit et quasiment autofinancé. Il va nous détailler tout ça, d'où vient sa passion et quelle est l'ambition qu'il porte avec ce film qui est déjà en train de remporter des prix dans les festivals partout autour du monde. Il paraît même qu'on va aller jusqu'au Japon. On a aussi, alors au Japon, je ne sais pas s'il va y aller ce soir, on a Adrien Coron. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
J'aimerais bien aller au Japon.
Ben merci pour cette intervention. Adrien qui capte rien autour de 18h35 certainement, si on arrive à tenir les timings. De quoi on parle?
De France Travail, je sais pas.
Ah oui, tu disais que t'étais pas bon en com, c'est peut-être...
Ouais, tu m'as pris de court, je sais pas le mot que je cherchais.
Bon bah t'as le temps de te préparer pour faire ta chronique tout à l'heure à 18h. Tu reparles, attends, je suis en train de capter, tu reparles de travail, de France Travail?
Non, pas... Bah, vous verrez.
On verra, voilà. C'est du teasing. Et puis on a aussi l'équipe, une partie de l'équipe de l'audiobook avec Tony et Ben qui vont nous expliquer tout ça dans quelques instants. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette. Avec Pierre Benoît.
Et avant d'accueillir nos invités, je vous rappelle que Radio G et Topette est partenaire des JNP, les Journées Nationales Prison, proposées par le groupe Angevin de Concertation Prison. Alors deux dates à retenir, le 15 novembre avec une cellule qui sera proposée en centre-ville près de la Bourse du Travail à Angers pour découvrir à quoi ça ressemble une cellule de prison et les conditions dans lesquelles sont détenus les détenus. Et le 25 novembre, une soirée de théâtre et débat à la Maison pour tous de Montplaisir pour dialoguer justement autour de la culture en détention et de la détention et de la réinsertion de ces détenus une fois qu'ils ressortent de cette prison. Troisième édition aussi du Forum des médecines de l'âme, les 28, 29 et 30 novembre, c'est à Mauges-sur-Loire avec des conférences, ateliers et rencontres autour des pratiques thérapeutiques et artistiques qui éveillent à la dimension spirituelle de chacun. L'entrée est libre, mais on vous conseille fortement de vous inscrire. Plus d'informations et inscriptions justement sur forum-am.com. Et maintenant, on accueille nos nombreux invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
On ne pourra pas l'enlever au montage, les aléas du direct. On va commencer d'abord par Jonathan, on va être avec toi tout à l'heure, mais on va d'abord commencer par, j'avais oublié qui venait, donc Tony et Ben, bonsoir.
Bonsoir.
Surprise.
Surprise. Alors, vous êtes dans l'équipe, surtout toi, Tony, hein, c'est toi le rédac chef, le producteur de l'émission Improstation. J'essaie de voir en même temps sur le planning.
Jeudi, semaine paire à 20h.
Ouais, je le vois pas, mais c'est ça. Jeudi, semaine paire à 20h. Oui, ouais, exactement. Improstation. Voilà. Alors, tu vas nous en parler aussi avec Ben, mais surtout, on va parler de l'audiobook, puisque nous, on le diffuse de temps en temps dans Topette. Mm-hmm. Cet audiobook, puisque vous êtes là, nous rappeler un peu dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est, Tony?
Eh ben alors en fait c'est un livre que j'ai écrit il y a 2 ans et demi maintenant et bon c'est plutôt théâtralisé, il y a des dialogues un peu foufou, alors sans prétention on est sur un style que j'essaye en tout cas de ressembler un peu à du Kaamelott sur les dialogues et sur du Tarantino au niveau des scènes un peu d'action qui peuvent être un peu des fois gore mais c'est du gore des fois ridicule voilà.
En tout cas, c'est ton inspiration.
Oui, c'était l'inspiration pour le livre là et bon, à chaque fois je me disais ça serait quand même amusant de le voir transcrit en book audio. Et comme j'ai rencontré toute une flopée d'improvisateuristes talentueux et surtout qui étaient prêts à me suivre dans le délire, ben voilà, on enregistre ça grâce justement à Radio G. Donc on les retrouve sur le site de Radio G dans les podcasts plus.
Alors parce que c'est de l'improvisation ou tout est écrit ?
Alors non, c'est bien écrit, c'est pas de l'improvisation, mais comme ce sont quand même, mine de rien, des comédiens et des comédiennes qui aiment bien tenir des rôles, faire des personnages haut en couleur, ce qui est voilà, le but pour faire vivre, que ce soit pas trop non plus chiant au niveau de l'allogorée, c'est de faire en effet il y a des personnages assez foufou et enfin le terme foufou peut-être pas c'est pas très
éclectique.
Ouais voilà
éclectique volubile
ou en couleur c'est ça
ou en couleur ouais couleurs. C'est peut-être mieux parce que foufou on a l'impression qu'on va être en cours de récréation
ouais, c'est clair.
La bibi non ça va donc ouais et voilà, ils les mettent en scène brillamment, on rigole vraiment beaucoup à enregistrer et en plus Ben il a le rôle principal alors c'est pour ça que ça s'appelle Autobiographie, j'ai même pas dit le titre.
Oui, c'est clair.
Autobiographie d'un Bernard Lhermitte. Alors voilà.
Ah oui, tu sais que moi-même, je ne l'avais pas.
Mais je me suis dit, on n'a même pas dit le titre. Mais en fait, voilà, c'est Autobiographie d'un Bernard Lhermitte. Pourquoi un Bernard Lhermitte ? Ben, ça, vous le saurez en écoutant aussi le.
Et donc, c'est toi le Bernard Lhermitte, en fait, Ben ?
Ouais, c'est ça. C'est
exactement ça. Le Ben Rare Lhermitte.
Le Ben Rare Lhermitte. Ah, c'est dur à dire. Le Ben Arnard Lhermitte.
Ben, cette fiction, ce format-là, ça doit être assez intense, assez nouveau aussi quand on est habitué à être sur scène, de se mettre en radio. C'est peut-être pas la même posture.
C'est totalement différent parce que pour le coup, l'avantage qu'on est en scène, c'est qu'on peut utiliser son corps, les silences. Enfin, on peut beaucoup utiliser les silences en radio, mais un silence en radio, c'est pas la même chose qu'un silence.
Faut pas que ça dépasse 6 secondes, sinon il y a une liste de secours qui part.
Exactement.
Ouais. Et puis c'est parfois pas très naturel. Enfin, ils ont moins facilement à mettre des silences ou en tout cas prendre en compte les virgules du texte. On a l'impression qu'il faut avoir une espèce de.
Il y a un rythme à tenir.
De rythme, voilà, ouais. Alors que des fois, les silences sont aussi importants à la radio.
Et vraiment, toute la finesse du truc, en tout cas de ce que je vois, c'est vraiment à la fois de tenir un rythme pour que ce soit audiblement. Rythmé et qu'on ne s'ennuie pas et qu'on y reste et qu'on s'accroche tout en étant juste entre guillemets, un peu comme au théâtre, il faut qu'on en fasse un peu porter la voix pour que tout le monde entende etc, mais en essayant de rester le plus juste possible. Donc c'est un peu un exercice vraiment qui un peu l'opposé de l'acting entre guillemets, même si avec le micro et qu'on entend bien, on peut techniquement se permettre d'être moins exubérant, donc passer quelque chose qui ressemble plus à de l'acting et d'essayer de mettre des fois de l'émotion ou des posages de mots quoi.
J'ai cru que t'allais faire un silence là justement.
Oui, justement.
Je me tourne vers Adrien parce qu'Adrien, toi, c'est un peu le même exercice dans lequel tu t'es mis avec ces chroniques. Tu passes de la scène à la radio. Est-ce que tu te reconnais un peu dans ce que dit Ben par rapport à la difficulté supplémentaire que c'est de plus avoir le visuel, le côté pause et les silences et compagnie?
J'ai un peu le même problème parce qu'effectivement, moi, j'adore les silences. C'est très riche un silence. Il y a beaucoup de trucs qui s'expriment dans un silence. Mais c'est vrai qu'à la radio, c'est assez vite chiant.
Ouais, c'est ça en fait. Ouais.
Et c'est dommage.
La dynamique est pas du tout pareille, ouais, c'est vrai. Bon, on le voit aussi avec l'improvisation, hein, quand on fait des impros, des persos, s'il y a des longs silences, sur scène, ça se voit, ça se comprend. À la radio, bon, c'est tout de suite plus compliqué, donc, ouais, l'audiobook, c'est pareil, faut essayer d'y aller. C'est pareil, il y a des personnages qui sont un peu lents, je pense à Nico, qui fait aussi partie de l'équipe de C'est le week-end, qui fait un personnage qui parle comme ça, quoi, tranquille. Mais, ouais, d'un côté, c'est bien, ça fait vivre un personnage un peu différent, mais il y a une dynamique qui est différente. Donc, on essaie d'avoir enfin, il est face à d'autres personnages qui sont un peu plus punchy, donc bon, ça fait un mélange.
Et toi, John, qui a l'habitude de travailler l'image, là, on est vraiment que sur du son. Est-ce que le son raconte tout autant de choses? Il paraît qu'un film bien réalisé, bien construit, bien monté, on peut le regarder les yeux fermés.
Ah ouais, complètement. Mais c'est même surtout très souvent, je pense que tu peux regarder un film avec une qualité d'image mauvaise, mais par contre, et c'est regardable si t'as le son qui est bon. Regarde une vidéo avec un son pourri mais une image magnifique, tu vas voir, c'est insupportable. Donc le son, c'est super important. Donc que ça soit pour les dialogues, pour la mise en scène, pour l'ambiance, etc. La qualité et le travail que tu fais de réalisation dans ton audio et dans ton son, c'est super important.
Alors l'audiobook, justement l'autobiographie d'un Bernard Lhermitte, Tony, Ben, les retours que vous avez pour l'instant?
Ma mère a dit que c'était bien.
Bon, bah, parfait. Donc, ça veut dire que c'est bien.
C'est assez que c'est vraiment bien.
Moi, j'ai quelques retours de proches qui j'ai fait écouter et des amis aussi que, à qui je l'ai pas forcément diffusé, etc., qui m'ont dit, ah, c'était trop bien, j'aime bien le rythme et tout, et on y croit en, la personne disait qu'elle écoutait beaucoup de petits podcasts comme ça quand elle travaillait, etc. Et on sentait qu'on lâchait pas le truc, et pour le coup, bah, ça restait crédible, parce que pour le coup, bah, on lâchait pas et on tenait bien les personnages. Donc ça, je pense, c'est un bon compliment qu'on peut faire en tant que comédien, acteur, qu'on, au moins, on arrive à pas lâcher le truc, et ça, c'est stylé.
Et certainement bien écrit aussi. John?
Non, j'avais juste une question pour eux. Est-ce que, du coup, maintenant que t'as la phase, audio de fait à travers ce audiobook, est-ce que toi t'as une pensée après maintenant de un jour peut-être le mettre en image, en faire peut-être un court métrage, en faire peut-être un long métrage,
est-ce c'est, que c'est, une que... pro- c'est une proposition là
non. Non, pas forcément, mais je vois qu'au final tu l'as écrit aujourd'hui, maintenant t'en fais un audiobook, donc tu vois t'es en train de au fur et à mesure de lui apporter d'autres supports. Et est-ce que maintenant dans ta tête tu aussi t'es en train de le voir en image?
Bah alors moi, je vais un peu tout petit peu digresser, mais c'est pour expliquer le principe. Je ne lis pas, j'arrive pas à me concentrer quand je lis, mais étonnamment j'aime bien écrire. Et en fait quand j'écris c'est extrêmement visuel parce que j'imagine vraiment les scènes comme si c'était une vidéo en fait. Donc c'est vrai que c'est pas mal de détails où on voit, on comprend tout de suite comment va se passer la scène. Dans notre tête on a ça renvoie à des images. Et ouais, forcément. Si, alors, si on avait le temps, parce que ça me demanderait énormément de temps, ça me botterait. Mais bon, c'est ça le problème. Là, même là, le book audio en soi, on prend du temps pour le faire. Mais si on voulait que ça soit encore plus parfait, et si on était perfectionniste, on serait obligé de prendre doublement du temps.
Ouais, ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit aperçu avec cette bande-annonce que tu m'as proposée, Tony.
Bonjour, je m'appelle Louis. Et si j'ai l'outrecuidance d'écrire une autobiographie, c'est parce que j'ai une vie peu banale. Je me suis retrouvé embarqué dans un cartel de drogue et non seulement je dois sauver ma peau tout le long de ce podcast, mais en plus, je suis entouré de cons. Si comme moi, vous pensiez avoir une idée précise de comment agissent les racailles, les délinquants, les criminels, eh bien, vous allez découvrir un monde de débiles. Heureusement, je compte bien changer tout ça.
Si tu n'y es pas dans une heure, t'es un homme mort.
Vous savez motiver les gens, vous.
Je n'ai rien entendu, c'est bien compris? S'il sait ce que je sais, il pourrait me flinguer.
Dis-moi qu'il y a un livre de compte.
Oh, vous tombez bien. Il y a des gens pas gentils qui sont à mes trousses.
Pas gentils? T'as cru que j'étais de la patte patrouille ou quoi?
Je gère mal la contrariété, sachez-le.
Qu'est-ce que tu as contre les gens qui aiment la sodomie végétarienne?
Entrer dans un milieu où la fin de partie se solde par une balle dans la tête dans le meilleur des cas, hein.
C'est fumier de Castagnas. Je vais me le faire, cet espagnol de mes deux.
Non, mais ça va pas. C'est suicidaire.
Bah, arrête, mec.
Je fais te retirer l'équation. Tu es un homme mort. J'aime les gens qui portent leur burne.
Ok, on va partir là-dessus. Ça ira.
Bon, en tout cas, on sent bien le côté édulcoré de toute l'équipe et des personnages. Les infos pratiques avant de se quitter, quand même, ce qui est important de retenir sur l'audiobook, c'est l'autobiographie du Bernard Lhermitte et où vous retrouvez Tony.
Alors, pour le coup, si vous voulez retrouver ce podcast et le découvrir, il est disponible sur le site de Radio G dans la rubrique Podcast Plus. Ouais. Excusez-moi, ABBDB. Il est également retrouvable sur Spotify et sur YouTube. Voilà. Il y a actuellement 14
épisodes
sortis.
13 épisodes, ouais.
Pour une vingtaine à peu près de prévus pour ce truc-là.
Une vingtaine 22, ouais.
Voilà, environ 22. Et sinon, si vous voulez nous retrouver, je suis de l'émission C'est le Week-end qui est diffusée en semaine paire de 19h à 21h sur Radio G. Voilà, et sinon je fais partie de la troupe des Sigomatics, je donne des cours aux Folies Angevines et je suis de la Titi. Et on joue avec la Titi le 28 novembre au catch des Patounettes. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, c'est un gros truc avec plein de troupes.
Ouais, faut venir.
Et voilà, ça va être très très cool. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai en tête à l'heure actuelle et tant pis si j'oublie des trucs.
Il sera toujours temps de les mettre dans la description du podcast. Bon, bah Tony, t'as plus rien à dire, il t'a tout...
Bah il a tout dit, hein, c'est parfait.
Restez avec nous bien évidemment pour poser des questions à notre prochaine invité et surtout pour redonner les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission. Avant tout ça, on écoute Adrien qui ne capte rien.
Adrien capte rien, dans Topette. Mais aussi chez lui, au travail, enfin partout.
Bonsoir, ça va bien?
Oui, ça va.
Ça va. Si j'ai bien compris, John, vous allez nous parler de mort et d'au-delà, c'est ce que...
Ça va y venir à un moment. Ouais.
Et je dois être honnête avec vous, le sujet me terrifie un peu parce que moi j'ai très très peur de la mort. Alors je suis conscient que tout le monde a peur de la mort, il n'y a personne qui dit « moi la mort j'adore », à part peut-être notre invité. Ou les croque-morts, ou les serial killers, ou les notaires, ou les gens qui ont acheté un appartement en viager. Il y a plein de gens qui adorent la mort, mais moi ça me terrifie. Bon, place au sujet de ma chronique. Figurez-vous que moi aussi je reviens de l'au-delà, au-delà du pont de l'île de Ré, puisque j'étais en résidence artistique là-bas. Une transition à mon image dans cette émission, bénévole. Une résidence artistique, pour ceux qui voient pas ce que c'est 5 intermittents du spectacle enfermés dans une maison avec piscine qui boivent du Côte-du-Rhône. Voilà, une sorte de love story financée par France Travail. Et ça, je crois que mon algorithme d'Instagram l'a bien compris, puisque depuis une semaine, l'application essaie de me remettre au travail. Fini les petits chatons, les recettes de cake à la citrouille, ou les photos de vacances de Pierre Benoît en slip de bain à La Roche-sur-Yon. Dans l'application, maintenant, elle me propose plus que des pubs pour des jobs, mais que des jobs dangereux. Dans les jobs que j'ai reçus, les annonces, j'ai reçu Paris recrute pour sa police municipale. Engagez-vous dans l'armée de l'air. Ou encore, EDF recrute des techniciens nucléaires. Moi, je crois qu'Instagram, il a un projet pour moi, mais ce projet, il implique la fin de l'humanité. On m'a même proposé de devenir neurologue à la SNCF.
Quoi?
Je vous jure, c'est vrai. Je veux dire, pourquoi pas dermato à la DGSE? Je sais pas ce qui est le plus inquiétant entre le fait que la SNCF recrute des neurologues plutôt que des conducteurs de train ou le fait qu'on ait tellement de déserts médicaux qu'on envoie des pubs ciblées à des intermittents du spectacle pour qu'ils ils postulent à des postes de médecins spécialistes. Moi, je pense que dans 3 ans, on va trouver des places pour Gad Elmaleh sur Doctolib. pour Menus et Bilal, Instagram, il nous attribue des passions. Pour certains, c'est les chatons. Pour Pierre Benoît, c'est le manque de goût vestimentaire. Moi, Instagram m'a caractérisé dans les gens qui adorent les reconversions professionnelles. Et c'est vrai, j'adore les reconversions. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, reconversion. Avant d'être troubadour, moi, j'étais assistant social, community manager et même collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale. Je faisais partie de ces rares personnes qui utilisent le mot anticonstitutionnellement dans la vraie vie. Moi, avant d'écrire des sketchs, j'ai écrit des lois, des amendements et surtout beaucoup de ruptures conventionnelles. Et puis je suis passé de l'Assemblée nationale au stand-up. On est 2 en France à avoir eu ce parcours de vie. Il y a moi et Jean Lassalle. Jean Lassalle, pour ceux qui connaissent pas, c'était un berger. Il est devenu le plus jeune maire de France, puis député, 2 fois candidat à la présidentielle. Et là, il vient de se lancer dans le stand-up à 70 ans. Et je trouve que ça fait du bien de voir des gens vivre leurs rêves et être là où on les attend pas. Jean Lassalle, on l'attendait dans L'Amour et dans le Pré. Ou chez l'orthophoniste. Et ben, il est passé de plus jeune maire de France à plus vieux stand-upper de France. Moi, ma théorie, c'est que Jean Lassalle, il a suivi les recommandations de son algorithme Instagram. Et je crois que c'est ce qui va nous arriver à tous. Les réseaux sociaux, ils sont en train de voler les emplois de conseillers d'orientation. On va se faire happer par cette fuite en avant vers la reconversion permanente et finir par faire le métier que nos téléphones ont décidé pour nous. Moi, je vais sûrement finir croque-mort à la SNCF pour surpasser mes peurs. Et vous, Pierre Benoît, je vous vois bien dans le cinéma, certainement costumier pour le tournage de Camping 4.
Il y aura peut-être du montage finalement pour certains messages. Je sais pas si t'es assez bon en auto-promo ou pas, Adrien, je crois avoir la réponse, mais est-ce qu'il y a des dates qu'il faut retenir? Il y a ton spectacle déjà en avril?
Mon spectacle, 22 avril au Palace Comédie à Angers. Et j'ai un site internet où je mets toutes mes dates, c'est adriencoron.fr.
Voilà, et ton Instagram sinon, tout simplement. Adrien, se retrouve dans 2 semaines?
Ah bah avec grand plaisir.
Si c'est pas férié, non, ça devrait être bon, normalement. Tout à l'heure, on va parler de ciné avec la chronique 2 et demi, ou 1 et 2, je sais plus quoi, mais c'est avec Mathéo et Johan. Et avant tout ça, on va parler ciné avec notre deuxième sujet de la soirée.
Topette, avec Pierre Benoît.
Et en fin d'émission, on reparlera ciné avec Yves qui devrait arriver en cours de route pour parler de champ contre champ. Mais avant tout ça, on est toujours avec toi, Jonathan Dyer. Alias ouais. John, réalisateur du film The Land of Shadows avec un S, donc la Terre des
Ombres. Terre des Ombres.
En bon français.
Comme ça, ouais.
Pour le titre québécois.
Okay, exactement. C'est bien.
Alors c'est un film, c'est ton premier long métrage que tu as autoproduit quasiment.
Bah, j'ai produit avec ma société de production. Ouais.
Voilà, qui s'appelle Gate
23 Productions.
23 Productions. Autofinancé aussi quasiment à presque 100%, ou en tout cas une grosse partie.
Ouais, après on a des coproducteurs, on avait notre société de production, etc. Mais le truc, c'est qu'on peut dire qu'on l'a autoproduit parce qu'on n'est pas allé voir le système traditionnel pour le produire. Et genre financement du CNC, etc. parce que j'avais pas envie de passer 4-5 ans de ma vie à attendre que le CNC me dise oui, c'est bon. Mm-hmm. Moi, je voulais le faire maintenant, donc voilà.
Et pour, du coup, t'es passé par une autre voie, celle des festivals. Tu l'as inscrit à quasiment tous les festivals au travers la
ouais,
planète.
Exactement.
En tout cas, ceux dans lesquels il avait sa place. Et ouais. Ça porte ses fruits, puisqu'il y a déjà 5-6 récompenses.
7 prix. 7 prix. Wow. Ouais, ouais.
Voilà.
Donc, 7 prix, dont meilleur film expérimental, meilleur film spirituel, 2 fois meilleure direction photo et 1 fois meilleur montage.
Et comme il est en festival, tu ne peux pas même mettre une bande-annonce sur les réseaux ou quoi que ce soit.
Rien
du tout. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir parce que tu as été très gentil avec moi pour me faire une petite idée. Et justement, pour se faire une petite idée, tu vas faire comme avec l'audiobook, essayer de nous donner des éléments visuels pour nous décrire.
Ah, j'ai cru que tu voulais que je te fasse le film entièrement en audio.
Au moins une bande-annonce audio.
Non, je vais te faire le speech du synopsis. C'est l'histoire d'une écrivaine qui s'appelle Alice Chevalier, qui est depuis 2 ans en deuil de la perte de son mari. Et dans cette recherche dans ce deuil, elle est un peu dans une recherche de trouver une nouvelle vie, une nouvelle voie, une nouvelle libération. Et dans tout ça, en fait, elle va croiser un homme assez mystérieux qui s'appelle Thomas Shade. Et ce Thomas, il va lui proposer une expérience qui défie les lois du normal. Et cette expérience va l'emmener à aller dans d'autres dimensions, d'autres univers. Et après, elle va croiser des choses étranges qui font peur. Et c'est vraiment difficile d'en parler plus que ça sur, en tout cas, le synopsis plus de l'histoire, parce que le film est vraiment... T'as vraiment cette première partie qui, on comprend, Alice Chevalier, elle est en deuil, etc. Elle est en quête de se retrouver. Et après, c'est vraiment une claque. non, mais c'est juste... Enfin voilà, je suis très content d'avoir fait un truc où quand tu regardes la bande-annonce et après quand tu regardes le film, tu dis « Ok, cool, on m'a pas tout vendu dans la bande-annonce.
Ouais. »
Et là, je suis face à plein de surprises et je suis en train de voir un truc que j'ai pas eu l'impression d'avoir vu avant.
Une toute petite précision, le film est entièrement en noir et blanc.
Ouais, exactement. Sous très grande inspiration. La grande inspiration de ce noir et blanc, c'était les premiers films du Universal Monsters. Donc le premier Dracula de 1931, ouais. Etc. J'étais amoureux de ce genre d'esthétisme. Et en plus, ce noir et blanc, ça coûte moins cher à faire. Donc c'était parfait.
Comme les bandes dessinées à une époque, il y avait une page sur deux qui était en noir et blanc.
Non, mais c'est ça. Ouais. Non, c'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est à partir du moment où tu fais le choix de la couleur, dans ta direction photo, dans tes costumes, dans tes décors, la couleur doit être impliquée partout. Donc, quand t'as pas les moyens de chaque décor de devoir les repeindre, patati patata, le noir et blanc est un très bon choix. Donc après, une fois que tu te dis bon, ok, ça me coûtera moins cher de le faire en noir et blanc, maintenant. Au-delà de l'argent, il faut que l'esthétisme soit super. Donc, quel est l'esthétisme qui m'intéresse dans le noir et blanc? Et je suis un vrai amoureux du Dracula de 1931, de ce côté très onirique, très rêve, etc. qu'on a plus aujourd'hui, parce que le noir et blanc aujourd'hui ressemble très à du noir et blanc Netflix, très digital, haute définition 8K, etc. Mmh. Donc, moi, j'ai essayé de revenir sur un truc très, très pellicule, très lumière diffuse, etc.
Ben, il avait une question, je l'ai vu lever
la main. Ouais, j'avais une question, mais je crois que tu as un peu répondu. Je voulais savoir c'était quel genre de film. Si tu pouvais le placer dans un genre, ce serait lequel, entre guillemets?
Bah, c'est vraiment ça. Tu as ce côté. Tu as un peu le côté, pour la partie philosophique et spirituelle, ce que le premier Matrix donnait.
Ok.
Ce côté sous-couche, c'est vraiment un film avec plusieurs layers, en fait. Mmh. Et à chaque fois que tu le revois, tu peux découvrir une nouvelle couche de lecture. Ça a été un gros travail d'écriture pour. Essayer d'avoir ça, en fait. Tu peux regarder le film une première fois, et t'as une couche de lecture normale. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, attends, il y a ça. Et si ça, je le comprends, et qu'après, je le regarde, le film a une toute autre vision. Et okay. Du coup, il a au moins 4 ou 5 couches de lecture comme ça. Donc, en tout cas, la partie philosophique et spirituelle de Matrix m'a énormément inspiré. Je pense que vous avez compris que j'étais un grand fan de Matrix.
Parce qu'on le voit pas, mais il a un pull Matrix.
Il y a même un sous-vêtement Matrix.
Complètement.
Il a d'éviter plusieurs
les chaussettes. Tout.
Cette émission est diffusée dans la Matrix.
et après, oui, toute la partie film entre guillemets d'horreur très Hitchcock et les Universal Monsters ont été une grosse influence. Okay.
Bon, on comprend bien que t'es clairement, de toute façon c'est le cas, hein, t'es un professionnel du cinéma, en tout cas de la réalisation, tu as des inspirations très précises, d'un puits de connaissances, voilà, moi Dracula, je savais même pas que c'était en 1931. La question que j'ai, c'est par rapport au thème en plus, par rapport à l'aspect qui est donné à ton film, du coup en noir et blanc, c'est quand même des choix artistiques forts, des marqueurs. Est-ce que Adrien, par exemple, qui semble effrayé par la mort, est-ce que il pourrait être intéressé par ton film? Au niveau du public, est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir les codes, de décrypter? Ou alors, est-ce qu'on peut, tu parlais des couches de lecture tout à l'heure, est-ce qu'on peut, ne serait-ce que par l'esthétique, être happé par le film et puis pour d'autres, être plus happé par la profondeur philosophique?
Ouais, complètement. C'était tout l'intérêt de créer une première lecture où t'as, entre guillemets, juste l'impression de vivre une expérience un peu folle avec tout cet ADN du Monster Universe, de tous ces vieux films entre 30, 40, 50, etc., du vieil Hollywood, en fait. Donc forcément, tu peux, en première lecture, juste kiffer ça comme ça. Et c'est juste après, bah, ceux qui vont avoir certains codes, que ce soit philosophique ou spirituel, ou paranormal, etc., vont commencer à tilter sur certaines choses. Donc c'est là où, en fait, c'était cool pour le film et qu'il a, du coup, que je vois qu'il a cette belle réception en festival, c'est qu'il peut parler un peu à tout le monde.
Et justement, la réception qu'il a en festival, il est primé pour quels critères? Pour la réalisation? Pour l'histoire? Est-ce qu'il y a des choses... est-ce que c'est un petit peu pour tout? Ou à chaque fois, c'est pour...
C'est assez général, tu vois. Il y a un festival qui l'a primé pour meilleur film spirituel. Donc là, clairement, pour eux, ça a été... Ouais, ok, juste sur cette partie spirituelle, il est superbe. Let's go, c'est pour toi. Après, tu vois, j'en ai eu un, c'était meilleur film tout court. Donc
quel festival? C'était les noms des...
Il y en a un qui s'appelle Ciné Paris Festival. Il y en a un, là, le dernier qu'on a gagné, donc qui était pour meilleur film, c'était au Portugal. Je serais impossible de te citer le nom.
Sur Instagram, on peut les retrouver.
Ouais, sur, du coup, il y a un Instagram pour le film et, je dois faire très attention à, vis-à-vis de la promo actuellement, de pas trop diffuser. Donc juste, en fait, je diffuse tous les lauriers que le film récupère au fur et à mesure. Donc pour l'instant, en fait, la promo est juste sur sa tournée en festival.
Et c'est international, du coup, est-ce que je vois?
Ouais, la semaine prochaine, j'attends une réponse pour son premier festival au Japon.
Ouais.
Mais c'est, en fait, l'idée, c'est que, comme je l'ai produit sans normalement, quand tu fais un film en version officielle, t'as le CNC qui te donne de l'argent et t'as déjà tout de suite ton distributeur, en fait, dans la majorité des cas. Là, l'idée, c'est on partait à zéro, sans personne. Donc, le seul moyen de faire voir le film, c'est de l'envoyer le plus possible partout. Ouais. Donc, là, il tourne aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Espagne et au Japon, peut-être la semaine prochaine, j'espère. Donc, c'était la seule solution pour le déployer le plus possible.
Alors ça, on va en parler tout à l'heure du pourquoi justement cette stratégie. On pourra ouvrir le débat sur, enfin la discussion sur les financements comme ça. Tu parlais du CNC qui est l'institution un peu, voilà, qui est facilitatrice mais aussi bloquante peut-être dans certaines situations. On pourra en discuter ensemble. Mais avant tout ça, puisqu'il est, voilà, il y a l'artiste, l'œuvre, tu as mis de toi dans cette œuvre, c'est pas anodin. Le thème, c'est quelque chose qui te correspond. Il y a les inspirations cinématographiques, mais aussi cette thématique. Parle-nous un petit peu de toi, de par rapport à cette thématique de là, c'est sur l'hypnose. Ça part sur l'hypnose à la base.
Ouais.
Ensuite, il y a beaucoup de spiritisme, de l'au-delà.
Ouais. En fait, oui. L'idée, c'est que avant de me lancer dans ce film, avec ma fiancée Sandy Lagdar, on a fait une série documentaire pendant 10 ans, donc qui s'appelle The Believers, il y a encore des épisodes qui sont diffusés actuellement sur MyCanal, saison 3 et 4, je crois. Donc ça a été pendant très longtemps diffusé sur Planète Plus AEE, qui est une chaîne du groupe CanalSat. Bref, on a fait ça pendant 10 ans, et pendant 10 ans, l'idée, c'est qu'on partait enquêter sur des lieux pour essayer de faire des expériences et des rencontres paranormales. Nous, on venait avec Sandy Lagdar, on venait pas du tout de ça, hein. Ça s'est amené à nous, entre guillemets, dans notre vie. Et à la base, on voulait juste faire un documentaire unitaire, et on l'a fait, sauf qu'on a tellement aimé qu'on s'est dit pourquoi on n'en ferait pas en fait une série documentaire.
Et qu'on le précise, c'était avant la mode un peu sur YouTube des enquêtes paranormales.
Complètement. En fait, okay. Quand on a commencé ça, il y avait rien en fait. Il y avait rien sur YouTube. Et c'est les premiers YouTubers qui l'ont fait nous avaient même envoyé un message pour nous dire bah merci, ça nous a inspiré. Les premiers qui existent, tu vas même dans les crédits, c'est marqué remerciements The Believers. Donc on sait que là-dessus, on a été
Précurseur.
On n'a pas été précurseur d'inventer l'enquête paranormale parce que ça existait déjà à la télé. Mais par contre,
X-Files.
Là, pour le côté fiction, mais
aux États-Unis, ça existe certainement.
Non, mais c'est ça. Aux États-Unis, t'as une émission qui s'appelle Ghost Adventure, qui est super connue. En Angleterre, ça a plus de 20 ans. Même si en Angleterre, la plupart des émissions, c'est de la 100% de la connerie, c'est 100% fictionnel. On essaie de te faire croire que c'est du documentaire, mais c'est 100% fictionnel. Mais en France, par contre, c'était le concept de documentaire et d'enquête paranormale était quasi inexistant. Et du coup, ouais, ça a lancé quelque chose, quoi.
Alors, ça, c'est pour la thématique. Pour le côté cinématographique, là, bon, t'es un professionnel, hein, tu t'es formé pour, c'est ton cursus de base. On l'a compris. Alors, tu m'avais expliqué que Jurassic Park, d'abord, le film t'avait marqué pour être paléontologue.
Ouais.
Après Matrix, ça a été plutôt pour le côté cinématographique, du coup.
Matrix, ça a été, c'est sûr et certain, je ferai un film un jour.
Voilà. Et justement, parce que finalement, t'as jamais eu l'opportunité de le faire, et là, t'es en train de te dire, le temps file et entre tes mains, et c'est peut-être le moment de le faire. C'est un rêve que tu réalises avec la réalisation de ce film.
Complètement. En fait, moi, j'ai commencé vraiment la réalisation. Enfin, mes deux tafs, c'est réalisateur et monteur, continuellement. Et ça, j'ai commencé à 21 ans. Bon, j'ai commencé sur Angers, mais j'ai très vite vu que ça allait être compliqué, ouais. Donc je suis parti sur Paris. Et donc pendant des années, mon truc c'était de filmer des artistes, mais surtout dans l'électro. Donc c'était genre Justice, Kavinsky, Sébastien, enfin tout le Headbanger Crew, etc.
Il dit ça comme ça. Hein.
Ouais, non, mais c'est. Je découvre. Moi, je suis Edith Piaf.
Le fantôme d'Edith Piaf et tout. Non, mais c'est. J'ai fait ça pendant 5 ans. Après, c'était juste épuisant. Alors c'était très cool, mais c'était très rock'n'roll. Mais bon, quand tu te lèves à 9h du matin et que t'attaques au Red Bull et au whisky, bon, au bout d'un moment, j'ai compris que je pourrais pas faire ça toute ma vie. Mais c'était vraiment cool. Et puis, petit à petit, j'ai attaqué avec mon ami Mathieu César. On a commencé à faire de la mode, du clip. Donc, on a fait des clips pour Vladimir Cauchemar, Clara Luciani, etc. Et puis à côté, j'avais cette série documentaire The Believers, qui, elle, avait pas forcément le truc de me continuer dans l'exercice de la réalisation, etc., parce que je l'adaptais avant tout pour la télévision et que c'était pas forcément ce que je voulais faire, mais par contre qui spirituellement m'a ouvert énormément de choses. Donc humainement, elle m'a apporté énormément de choses, cette série. Et du coup, bah voilà, entre la mode, la musique et ce côté spirituel de The Believers et le fait que je commençais à arriver à 40 ans, je me suis dit bon, là il va falloir peut-être faire des choix et attaquer le cinéma for real, quoi.
Bon, en tout cas, on a hâte de le voir sur grand écran, on espère un jour au 400 coups à Angers, pourquoi pas.
Ouais, sur certains. Avec Sandy, on en parlait hier avec eux. Donc tout se fera.
Il donne l'info quasiment, mais il faut attendre que la saison des festivals soit passée.
C'est jusqu'à juin. En fait, tant que t'es en festival, tu peux pas le sortir. En fait, ça fait partie du deal. Alors certains festivals acceptent que ton film soit déjà sorti, mais honnêtement, 99% des festivals te disent ton film ne doit pas être sorti. Et donc du coup, le film est jusqu'en juin 2026 en festival.
D'un tout petit mot, est-ce que quelqu'un a une question? Ben, Tony ou Adrien, comme ça l'équipe des chroniqueurs ciné, Johan et Mathéo vont pouvoir venir s'installer tranquillement. Est-ce que non, Adrien, t'as pas de...
Je me demandais combien de temps ça dure depuis le début de l'écriture jusqu'au moment où ça arrive en festival pour un projet comme ça.
L'idée, hein, c'était là, j'avais toute la liberté de faire les choses assez rapidement. Donc j'ai commencé à écrire le script en octobre 2023. En janvier 2024, je l'avais fini. Et tout de suite, genre février-mars, j'ai attaqué la pré-production. Et on a commencé le tournage fin juillet 2024. Okay. Et j'ai fini la post-prod fin juillet 2025. J'ai presque passé presque 10-11 mois sur la post-prod.
Ok.
Parce que c'était aussi long parce que j'ai tout fait tout seul.
Ok.
Et ben voilà, il a répondu à ta question.
Et ben exactement.
Bon, John, tu restes avec nous, tu vas nous redonner toutes les infos pratiques tout à l'heure pour découvrir l'aventure en festival de The Land of Shadows et aussi ne pas louper le moment où on pourra enfin le voir sur grand écran. On va rester en cinéma puisque maintenant on accueille nos chroniqueurs ciné.
Topette avec Pierre Benoît.
Nous
dernier, peut-être avez-vous été intrigué par une affiche toute rouge remplie de ballons entourant cette famille dont on ignore tout. Peut-être avez-vous vu ce titre, Yi Yi, une ressortie pour les 25 ans du classique du cinéaste taïwanais Edward Yang, qui l'a fait revenir sur le devant de la scène. Il est aujourd'hui un des réalisateurs en vogue. En ce moment, lui qui est chinois de naissance, né à Shanghai, il migre ensuite vers Taipei, puis il grandit. Le cinéma l'intéresse, mais il le trouve trop commercial. Alors il se dirige vers la Floride pour faire ses études en génie électronique. Une vocation écourtée par un déclic, Aguirre ou la colère de Dieu d'Herzog et sa mythique flûte de Pan.
Il repart pour Taïwan faire ses premiers téléfilms, courts-métrages. Il enseignera ensuite à l'Université nationale d'art de Taipei, où il engagera souvent ses étudiants comme acteurs d'ailleurs. Se dégage alors un marqueur fort dans son cinéma. Il a connu la transition de l'embargo à la démocratie. Il a donc une vision du système taïwanais bien à lui. Il le met en image via des cadres urbains. Grande caractéristique de ses films, que ce soit ses plans d'ensemble ou L'homme Paris minuscule. La ville comme terrain de jeu, l'opposé d'un autre réalisateur qui porte lui aussi à plein bras le nouveau cinéma taïwanais. Ou Xia Xian et sa vision des campagnes. Une carrière marquante, 8 longs métrages et tout, dont le dernier, ressorti en salle en août dernier, qui lui vaudra une reconnaissance internationale. Yi Yi, c'est surtout la porte d'entrée pour comprendre son cinéma, alors plongeons.
Why are we afraid of the first time? Every day in life is a first time. Every morning is new. We never live the same day twice.
Sorti en 2000, tourné en 35 mm, Yi Yi marque l'apogée du cinéma d'Edward Yang. Il remportera le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Son titre Yi Yi signifie littéralement 1-1, une manière pour Yang de dire que chaque être humain est relié à l'autre, que nos existences se reflètent et se répondent. Le film raconte l'histoire d'une famille taïwanaise, de ses péripéties amoureuses et de 3 générations confrontées aux mêmes sentiments, mais pas de la même manière. C'est un film sur le silence, le temps qui passe et l'immensité de la ville, ou la crise intime qui devient universelle.
L'histoire s'ouvre sur un mariage et se referme sur des funérailles, symbole du cycle de la vie et du passage du temps. Yi Yi tisse les trajectoires croisées de 3 générations, inscrivant leurs émotions dans un Taipei vivant et concret, presque un personnage à part entière, un véritable terrain de jeu pour les protagonistes. Yang filme le banal avec une authenticité rare. C'est vrai que les images restent imprégnées longtemps en tête. L'une des scènes les plus visuellement fortes se déroule d'ailleurs dans un simple McDonald's, pour preuve. Donc il peut prouver sa capacité à trouver de la poésie dans la vie quotidienne. Sa mise en scène privilégie les plans moyens, parfois larges, et les compositions minutieusement réfléchies, souvent traversées par les reflets des vitres et des miroirs qui traduisent l'enfermement intérieur des personnages tout en soulignant la modernité urbaine de Taipei. Le film évoque aussi le lien complexe entre Taïwan et le Japon à travers les souvenirs, les influences culturelles et les relations personnelles.
Yi, c'est enfin une médiation sur la multiplication des individus, sur la difficulté à se comprendre dans un monde saturé d'images et de reflets. Le personnage de Enji, figure centrale du récit, est l'alter ego d'Edward Yang, un homme lucide mais désenchanté face à un monde en mutation. Au moment du tournage, le cinéma taïwanais traverse une crise et Yang peine à réunir une équipe technique. Malgré ces difficultés, Yi deviendra le film qui a relancé la visibilité internationale du cinéma taïwanais, renforçant la place d'Edward Yang comme l'un des cinéastes majeurs de son époque.
He was having some problems.
Autre histoire, autre film, milieu des années 80, le film Taipei sort. Sort en salle uniquement à Taïwan, deuxième long métrage du jeune réalisateur. On se retrouve là avec un film intimiste, des dialogues naturalistes et qui se veut le plus possible se rapprocher du réel. Enfin voilà, on sent l'inspiration du cinéma européen d'Edward Yang à la Antonioni ou à la Herzog. Pour raconter Taipei Story, je me suis dit qu'il serait plus simple de me concentrer sur la première scène et vous de la raconter le mieux possible. La scène s'ouvre dans un appartement, on y voit une baie vitrée et à travers de gigantesques gratte-ciels dessine l'horizon. Ensuite, deux personnages, les deux principaux on suppose, les deux amoureux rentrent en scène. Silence complet, juste le bruit des talons, cette femme pour rejoindre son mari, collée à la vitre pour contempler la métropole. Une distance est de mise entre les deux, pas de rapprochement physique. Pourtant, on apprend que elle et lui sont sur le point d'emménager ici. Elle tourne le talon et retourne là d'où elle vient, d'où elle est venue pour lui faire part de ses envies matérielles, acheter un magnétoscope, de quoi pouvoir jouer de la musique, une télé, etc. Ils se répondent mutuellement d'une pièce à l'autre. Que ça soit un encadrement de porte, un mur ou juste une vitre, quelque chose cloche. Tout les sépare. Tout est une question de contraste et d'opposé dans cette scène. Le vide de l'appartement est entouré de dizaines de gratte-ciels. La vie grouille tout autour, ça klaxonne, ça s'interpelle dans la rue entre passants pendant que les deux personnages s'échangent à peine deux phrases. Cette scène introduit déjà le décalage entre deux visions du monde. Elle rêve de modernité, d'émancipation, d'un avenir lié à l'Occident. Elle travaille dans un bureau d'architecture moderne, pour preuve. Lui reste attaché au passé, aux souvenirs de l'ancien Taipei, à son identité traditionnelle. Il regarde en boucle ses anciens matchs de baseball. Il tient une boutique de tissus. Tout le film découle de ce contraste entre nostalgie et modernité, mémoire et effacement, intimité et aliénation urbaine. Il est là le propos d'Edward Yang, faire part de la transition traditionnaliste et autoritaire taïwanaise à un monde aliéné par l'Occident. Que ce soit Michael Jackson joué dans les bars, le McDo ou l'architecture des immeubles qui se ressemblent tous, l'Occident s'est imprégné. Tout se transforme, ça va trop vite, on se perd. 40 ans plus tard, le film est toujours actuel, 1985 ou 2025, tout va vite, mais rien n'a changé depuis.
Edward Yang, c'est aussi l'une des pierres angulaires d'un mouvement que l'on appelle le nouveau cinéma taïwanais, cette valse de nouveaux réalisateurs qui débute dans les années 80. À cette époque, plein de petits cinéastes émergent, mais quelque chose les frustre. Le CMPC ne propose et finance que des mélodrames grand public ou des films de propagande. Lorsqu'en 1982, la Central Motion Picture Corporation confie à ces jeunes la mission de renouveler l'image du cinéma taïwanais, c'est une aubaine. Le film fondateur se nomme In Your Time, réalisé par quatre réalisateurs dont Edward Yang, une production humoristique qui pose les bases de ce nouveau cinéma taïwanais, filmé le quotidien. On considère beaucoup plus les décors, bien qu'ils ne soient qu'uniquement pittoresques, quotidiens et surtout réels. Au centre des personnages dits ordinaires, un environnement social marqué, des ouvriers dans The Boys from Fengwei de Hu Shanshen ou des paysages dans Growing Up des chaînes connues. La lenteur prime, la poésie qui découle de ce minimalisme est aux antipodes de ce qui se faisait alors jusque-là sur l'île. Des plans longs et fixes, peu de musique, un rythme très lent, une importance du silence. La mémoire historique est très présente dans A Brighter Summer Day d'Edward Yang, réalisé en 1993, une fresque sur une jeunesse qui a peur de la répression politique dans les années 60. Un outil de mémoire collective qui filme la modernité des villes où les personnages ne se rencontrent plus, comme dans Terrorizer d'Edward Yang ou encore la colloque de trois personnages dans un appartement vide à Taipei qui ne communiquent pas. C'est Vivre l'amour de Chai Ming-yang, un héritage total comparable à la nouvelle vague française dans l'esprit de liberté et le réalisme poétique.
Trop tôt, à 59 ans, Edward Yang laisse derrière lui 8 films, un projet avec Jackie Chan et l'idée d'un film d'animation.
Tant que ces films vivent, lui aussi, aujourd'hui c'est toute une nouvelle génération qui se connecte à son cinéma. J'ai pu discuter hier avec Nathan Ambrosioni à l'occasion de sa projection en avant-première de son film Les enfants vont bien à Angers. À un moment dans la discussion, sans que je le lance, il me parle de ses dernières découvertes. Écoutez.
Déjà, j'ai découvert le cinéma d'Edward Yang et je trouve ça passionnant. C'est un cinéaste très urbain et tout, il laisse beaucoup exister la ville et il a Taipei comme décor et tout, enfin, c'est génial. Mais justement, j'ai compris l'importance des plans larges et de faire respirer le spectateur et qu'en fait, ça lui enlevait pas de l'empathie pour les personnages, au contraire. Moi, je trouve ça assez bouleversant de voir le corps entier d'un personnage. Et avant, je faisais pas assez confiance au spectateur, je pense. Je me disais, si on est trop loin des personnages, il va pas les comprendre.
En attendant deux semaines pour une nouvelle chronique, on va vous donner quelques recommandations aux 400 coups, notamment la sortie de Sound of Metal, enfin la ressortie de Sound of Metal le 17 novembre, le film de Darius Marder. Le 17 novembre, on aura également Dementia 13, le premier film de Francis Ford Coppola. Et puis, autre rétrospective, autre film, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, le lendemain.
Merci beaucoup Mathéo, merci Johan. Effectivement, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique de 1,5. Voilà, 2 et 1,5, c'est ça, ils me font oui de la tête. Il nous reste encore un petit peu de temps pour conclure avec Jonathan, d'ailleurs, qui était avec nous pour parler de Land of Shadows. Heureusement que tu as la casquette, parce que c'est comme ça que je peux vous identifier. Parce qu'il y a aussi,
mais il y a une raison pourquoi j'ai la casquette.
Pourquoi?
Bah, comme ça, t'inscris le message à tout le monde. Même dans la rue, je me balade et il y a un mec qui fait: putain, Land of Shadows, il y a un an, je crois que j'ai vu un mec avec cette casquette.
C'est la publicité constante.
C'est exactement.
Trop fort.
C'est exactement la stratégie qu'a adopté Yves, qui nous a rejoint. Bonsoir Yves. Ah bah t'as plus de micro.
Bah non, on me coupe la chic.
Bah oui. Toi aussi t'as une casquette. Par contre c'est marqué chant contre chant. Ouais. Alors voilà pourquoi tu es là en fin d'émission, pour nous reparler du festival chant contre chant. Jonathan, tu connais pas le festival ?
Alors j'en ai déjà entendu parler, mais j'y suis jamais allé.
Parce que quelqu'un avait une casquette un jour dans la rue ?
Peut-être.
Yves, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi parle ce festival ? Qu'est-ce que c'est ? C'est deuxième édition, troisième en réalité.
Alors deuxième édition angevine. En tout cas, pour ceux qui veulent des casquettes, on a une boutique, hein, donc vous pouvez acheter une casquette champ contre champ si vous voulez faire de la pub pour le festival et que vous aimez l'ambiance du festival. Donc c'est un festival autour des courts-métrages avec musique originale, les vidéoclips et le travail de la voix. Donc là, c'est maintenant, tout de suite, hein, c'est du 13 au 16 novembre, donc c'est chouette.
Alors tu dis ça comme ça, mais il faut quand même annoncer le programme, parce qu'il y a tout un tas d'ateliers, il y a des tables rondes, il y a même une émission qui sera sur Radio G avec les métiers de l'ombre et Fabien. Et puis on a un jury quand même, et des parrains marraines, des professionnels du secteur. Je suis prêt à parier que les personnes autour de cette table connaissent.
Effectivement, on a un programme qui est très très riche sur les 4 jours. Alors le festival est parrainé par Véronique Cogerot et Philippe Pétieux, qui sont les voix de Marge et Homer Simpson. Ils étaient présents l'année dernière dans le jury, et cette année ils parrainent le festival. Ils seront présents à partir de vendredi jusqu'à dimanche matin sur le festival. Il y a une dédicace qui est prévue à 18h le vendredi et à 17h le samedi. On a donc la table ronde, qui est donc le futur du doublage à l'ère de l'intelligence artificielle, où ils seront également présents. Mais bien sûr, il y a plein d'autres choses dans le programme
qu'on peut pas résumer là. De toute façon, on en a parlé la semaine dernière encore dans Topette, et puis t'en parles dans ton émission, Fabien aussi, Radio G est partenaire.
Tout à fait.
Ce qu'il faut retenir sur les infos pratiques, ou retrouver le lien pour acheter cette casquette par exemple.
Alors c'est champcontrechamp.com. Donc champ contre champ, c'est CHANTS contre CHAMPS. Voilà, champcontrechamp.com. Donc il y a effectivement une soirée concert tous les soirs, il y a des ateliers, des tables rondes et des projections. Voilà, notamment des ateliers autour du doublage avec Dorothée Pousseau qui va les animer, et des ateliers direction d'acteur avec la réalisatrice et scénariste Nora El Ourche.
Alors John, du coup, ce festival que tu découvres, quel regard, est-ce que ça t'intéresse d'aller?
Bah moi, ça m'intéresse énormément, et je voulais vous demander, il y a combien de festivals au final qui sont diffusés sur l'ensemble du
des films?
Ouais, de combien de courts métrages?
Ah oui, combien de courts métrages? Alors le nombre de festivals, j'en ai aucune idée. En fait, on a 12 courts métrages qui ont été sélectionnés parmi plus de 600. Dont deux films étrangers, un espagnol et un estonien. Et il y a 15 vidéoclips qui ont été aussi sélectionnés parmi plus de 111 clips qu'on a reçus. Donc voilà, c'est vraiment la crème de la crème qu'on a sélectionné. C'était un long travail, mais heureusement on était 5, donc c'est cool.
Et est-ce que c'est juste cinéma français, ou d'autres pays peuvent s'inscrire, etc.?
Vraiment tout le monde peut s'inscrire, okay. Tous les pays. Et la contrainte, c'est d'avoir une musique originale.
D'accord.
Voilà.
Donc une musique, pas des...
voilà, une des musique, une musique créée pour voilà, pour le film spécifiquement. Voilà. Il y a juste le vidéoclip, forcément c'est l'inverse, où là bah on crée une image pour une musique déjà existante.
Merci Yves.
Okay.
On te dit merde du coup pour le festival. Jonathan, qu'est-ce qu'il faut retenir sur Land of Shadows? Où est-ce qu'on retrouve toutes les infos pratiques pour commencer à découvrir réalisation?
Déjà, vous pouvez taper Land of Shadows sur Instagram et suivre son aventure en festival qui se conclura en juin. Donc il y a pas mal d'actualités qui vont continuer. Et puis bah, souhaitez-moi de trouver un distributeur.
Bah, on te le souhaite du coup. C'est vrai qu'on n'a pas le temps là d'ouvrir le débat, mais tu pourras en revenir, et surtout tu nous tiens informé de l'avancée de toute cette aventure.
Ça va le faire, 2026, octobre 2026 au plus tard, c'est bon.
Pour le 31.
Et si tu cherches un distributeur, il y en a dans les gares généralement, donc t'inquiète, je pense que ça peut le faire.
Okay.
La blague qu'on t'a fait, c'est vraiment un million de fois, en mode, t'as plus envie d'entendre.
fermez là.
Non, allez bien.
En tout cas, c'est une bonne transition que tu reprennes le micro. Ben, Tony, d'un tout petit mot, parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps. L'audiobook, l'autobiographie d'un Bernard l'Ermite, on retrouve tout ça où?
En un mot, foufou. Hein. Ça, je crois que c'était le mot maître. On le retrouve sur le podcast plus dans le site Radio G ou Spotify ou alors YouTube, autobiographie d'un Bernard l'Ermite, vous le trouvez facilement. Ou alors, si vous voulez juste acheter le livre, il est aussi sur Amazon. Bon.
Et pour finir même, j'ai pas présenté l'émission de Tony, Improstation à 19h. Ça, c'est 19h, il me semble.
20h les jeudis, pardon, en 20, semaine paire.
20h les jeudis en semaine.
Il s'appelle pas Tony en plus. Voilà.
Je m'appelle Michel, moi. Mais
Michel, excuse-moi. Je confonds toujours les deux.
Voilà. Et le festival Chant contre Chant vous attend déjà pour la troisième édition avec une proposition mise en image d'un de vos épisodes.
Ok, deal. Ok, un c'est deal. Bon, allez. Noté.
Bon, merci beaucoup en tout cas d'être passé dans Topette ce soir, une émission décidément assez cinématographique. On se retrouve demain, 18h10. Prenez soin de vous, à demain et Topette.
Bisous.